You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Le député libéral Craig Kelly s'excuse auprès des familles des victimes du vol MH17 pour avoir suggéré d'être moins sévère envers la Russie. En France, la commission d'enquête sur l'affaire Lactalis a rendu ses conclusions hier. Et l'Union européenne frappe Google d'une amende record pour pratique antitrust. Près de 300 personnes, dont 38 de nationalité australienne, ont trouvé la mort lorsqu'un avion de ligne malaisien a été abattu par un missile russe en 2014. Un jour après le 4e anniversaire de cet incident, Craig Kelly, un député australien du Parti libéral, a dit qu'il fallait être moins sévère envers la Russie afin de renouer des relations avec cette dernière. Par après, M. Kelly a dû présenter des excuses et déclarer à nos confrères de Sky News que ses propos ont été mal interprétés.
I apologise for any distress or all distress that I've caused any of the victims of the down input on the MH17, their family and their friends. I understand this is a very sensitive issue, but my comments were taken out of context. The context that they were made in is that I believe it is very important for the leader of the US and the leader of Russia to have a good working relationship.
Il faut rappeler que Craig Kelly a présenté ses excuses suite aux pressions de l'opposition qui lui demandait de s'excuser auprès des victimes du vol MH17. Bill Shorten, leader du Parti travailliste, a déclaré tôt ce matin dans un tweet que M. Craig Kelly n'avait aucune raison de s'exprimer comme il l'a fait. Julie Bishop, la ministre des Affaires étrangères, a, elle, demandé au Parti libéral d'intervenir dans cette affaire.
No one should underestimate the anguish and pain that the victims of MH17 family feel, and I hope that Craig takes that into account.
Des réfugiés qui avaient été détenus dans les camps de réfugiés de Manus Island et Nauru sont couplés avec des expatriés australiens vivant aux États-Unis. Le groupe Aussie Diaspora Steps Up offre une assistance financière et des liens d'amitié aux réfugiés transférés des camps de Nauru et Manus Island vers les États-Unis dans le cadre d'un accord conclu entre l'Australie et les États-Unis. Mohamed Hayes, un ancien détenu de Nauru, a déclaré à la SBS qu'il est reconnaissant de pouvoir bénéficier de ce soutien.
We really love Australian people. They always protest for us. They really, some people I saw the video and crying for us. So I really thankful Australian people, and even though I really thank the Australian government because they save us from the ocean. We are dying from there.
Un bateau tunisien d'une société gazière qui a récupéré à son bord une quarantaine de migrants est bloqué au large des côtes tunisiennes. Ni la Tunisie, ni l'Italie, ni Malte n'acceptent d'ouvrir leurs ports aux rescapés. Depuis la fermeture des ports maltais et italiens aux navires humanitaires, les autres pays autour de la Méditerranée craignent de devenir une zone de débarquement et de faire face à un afflux massif de migrants. Écoutons Pierre Pinto de RFI qui revient sur cette affaire.
Ils sont une quarantaine à bord, dont 8 femmes. Parmi elles, une est enceinte. Selon le site Infomigrant qui a été contacté mardi par l'un d'entre eux, tous sont à bout de force. Signalée par une plateforme gazière en fin de semaine dernière, l'embarcation de fortune à la dérive reçoit le secours d'un navire envoyé par les gardes-côtes maltais, le Caroline 3, qui leur fournit de quoi survivre mais refuse de les prendre à bord. Malte, comme l'Italie, refusant de les accueillir contrairement à ce que prévoit le droit international. Valentin Bonnefoy du Forum tunisien des droits économiques et sociaux.
D'après la convention SAR, la Méditerranée est divisée en plusieurs zones de recherche et de sauvetage. Et du coup, dans cette situation, c'est les autorités maltaises qui devraient être responsables du sauvetage, puisqu'elles ont été les premières à être appelées et que le bateau se trouvait dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise.
C'est alors qu'arrive le Saros 5, un navire ravitailleur qui prend les migrants à son bord. Direction Sfax en Tunisie, selon le FTDES, les Tunisiens envoient le bateau ensuite vers Jarjis, plus au sud, avant de finalement lui interdire l'accès au port.
Il y a aussi la crainte en fait que si la Tunisie accueille ce bateau, ça crée un précédent et qu'avec les dernières déclarations du Conseil européen, il y a de quelques semaines de volonté de créer des centres de débarquement dans la rive sud de la Méditerranée, que ça crée un précédent qui fasse que prochainement les bateaux qui seront sauvés au large de la Libye soient immédiatement amenés dans les ports tunisiens, bien que la Tunisie n'ait pas les moyens d'accueillir de manière digne ces personnes.
Les heures et les jours passent, les vivres s'épuisent. Mardi toutefois, des médecins ont pu se rendre sur le Sarost pour effectuer des contrôles médicaux et évaluer la situation. Toutefois, le bateau attend toujours et les autorités tunisiennes gardent le silence.
Et en France, la commission d'enquête sur l'affaire Lactalis a rendu ses conclusions hier. Ce rapport est une réponse concrète à l'affaire dite Lactalis, survenue fin 2017 en France. On se souvient que 36 nourrissons avaient été contaminés à la salmonelle après avoir consommé un produit laitier produit par la firme Lactalis. L'enquête judiciaire avait mis en cause la firme Lactalis elle-même, le laboratoire chargé du contrôle, ainsi que les autorités sanitaires. Anna Pietkarek de RFI revient sur cette affaire.
Il faut tout faire pour qu'une crise sanitaire comme celle qui a mis en danger la vie des bébés ne se reproduise plus. La commission formule à cette fin une série de recommandations. Son président, Christian Hutin, propose de créer une autorité unique responsable de la sécurité alimentaire. Actuellement, trois ministères gèrent les problèmes sanitaires, la santé, l'économie et l'agriculture.
Il n'y a pas à avoir de guerre des polices dans la sécurité alimentaire. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule police qui gère ça du début à la fin et qui évite les accidents.
Il est aussi indispensable de mieux contrôler les industriels et de responsabiliser les distributeurs. Les procédures de retrait des produits contaminés doivent être revues.
Il n'est pas normal d'abord qu'il y ait des produits en vente qui soient contaminés et qu'on en retrouve un mois après. Donc il faut responsabiliser les grandes enseignes, les pharmaciens, les crèches, les hôpitaux. Là c'était des bébés, mais ça pourrait toucher des milliers de gens. Ce n'est pas que la sécurité sanitaire. C'est aussi un risque de terrorisme. Et donc les retraits rappels, ça doit être immédiat. Sinon, sanctions financières, oui. Quand on touche au porte-monnaie, ça marche souvent bien avec les gens qui sont assez riches.
L'ensemble des préconisations du rapport devrait donner lieu à une proposition de loi qui pourrait être déposée au Parlement fin octobre.
L'Union européenne a infligé hier une amende record de 4,34 milliards d'euros à Google. Le géant américain est accusé d'avoir abusé de la position dominante de son système d'exploitation pour smartphones. Cette sanction risque de détériorer davantage les relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Google a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faire appel à cette décision. Bruno Faure de RFI revient sur cette affaire.
En cause, le système d'exploitation de Google, Android, qui équipe de très nombreux smartphones ou tablettes, environ 4 sur 5 en Europe. Tellement omniprésent que Google l'utilise pour privilégier ses propres applications, Google Search notamment, le service de recherche sur Internet, plus de 95 milliards de dollars de revenus chaque année grâce aux publicités, ou le navigateur Google Chrome. La firme californienne aurait obligé les fabricants à les préinstaller sur les téléphones vendus en Europe. Les fabricants qui refuseraient de se soumettre serait exclu de la boutique d'applications en ligne, ce qu'on appelle le Play Store. Des reproches qui s'accumulent d'année en année. En 2017, le groupe de la Silicon Valley avait été lourdement sanctionné par Bruxelles pour avoir favorisé son comparateur de prix, Google Shopping, et écarté ainsi ses rivaux. Depuis deux ans, Google est par ailleurs mis en cause pour ses pratiques commerciales accusées d'étouffer les concurrents de sa régie publicitaire. Les Européens en ont assez de patienter et donnent trois mois à Google pour rentrer dans le rang, un sujet de plus pour le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, attendu dans une semaine à Washington pour parler commerce avec Donald Trump.
Et hier, le premier vol commercial reliant l'Éthiopie et l'Érythrée depuis 20 ans a atterri à Asmara. Des familles séparées depuis le début de la guerre qui a opposé les deux pays à la fin des années 90 se sont joints à des dignitaires sur ce vol historique. En raison de la forte demande, un autre appareil a dû quitter Addis Abeba peu après pour donc effectuer le même trajet. La reprise des liaisons aériennes marque en tout cas un nouveau chapitre dans les réchauffements des relations entre les deux pays. Détail avec Clémentine Pavlovski pour RFI.
L'oiseau de paix vient d'atterrir à Asmara. C'est en ces termes que l'Ethiopian Airlines a annoncé sur son compte Twitter l'atterrissage du premier avion en 20 ans reliant l'Éthiopie à l'Érythrée. Un atterrissage marqué par les dents et chants de certains passagers. « Je suis surexcité, l'histoire est en marche », a déclaré l'un d'eux, Isana Abraham, un érythréen né à Addis Abeba, éloigné de son pays depuis la guerre qui a opposé l'Éthiopie à l'Érythrée entre 1998 et 2000. Émotion partagée par le directeur général de l'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam. « Ce jour représente un événement historique pour l'Éthiopie et l'Érythrée », a-t-il commenté. Et pour marquer le coup, sa compagnie a servi du champagne à tous les passagers de ce vol hautement symbolique. Des roses leur ont également été distribuées. En raison de la forte demande, un deuxième avion a décollé d'Addis Abeba vers Asmara dans la journée. La reprise du trafic aérien entre l'Éthiopie et l'Érythrée intervient quelques jours seulement après la réouverture des liaisons téléphoniques entre les deux pays et la réouverture de l'ambassade d'Érythrée en Éthiopie. Mais pour sceller définitivement leur réconciliation, les deux États devront à présent s'attaquer à des chantiers bien plus complexes, comme celui de la réouverture des ports érythréens à l'Éthiopie ou de la démarcation de leurs frontières communes.
Et retour en Australie où l'interdiction des fumées dans les endroits réservés à cet effet dans les pubs ainsi que la diminution des points de vente du tabac font partie des mesures préconisées par une vingtaine de groupes pro-santé. L'objectif de ces groupes, c'est l'élimination totale du tabagisme au Victoria. Le groupe Quit Victoria qui mène cette campagne espère en tout cas réduire à 5% le nombre des fumeurs au Victoria d'ici 2025. La Docteur Sarah White, directrice du groupe Quit Victoria, dit qu'il y a 700 000 fumeurs au Victoria et ce nombre doit être réduit.
We have still 730,000 Victorians smoking. It still costs us $3.8 billion every single year. It's the leading cause of preventable death and disease. So instead of just roads and just crime, which are important in their own, how about making a blue chip investment in preventing people from becoming sick in the first place?
Et un mot de cyclisme, Geraint Thomas s'est bien placé pour pouvoir remporter le Tour de France pour la première fois grâce à sa victoire hier dans la première étape de montagne. Thomas a remporté la 11e étape du Tour après une impressionnante attaque en fin de parcours qui lui a permis de décrocher en même temps le maillot jaune. Geraint Thomas devance en tout cas son coéquipier Chris Froome d'une minute 25 secondes. À la bourse, un dollar australien vous achète aujourd'hui 74 centimes de dollars US et 64 centimes d'euros. Et un coup d'œil météo pour ce jeudi, Perth 18 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 14 degrés également, Hobart 13, Canberra 15 degrés, Wollongong 19 degrés, Sydney 22, Newcastle 22 également, Brisbane 24 degrés, Cairns 27 et Darwin 33 degrés. C'est tout pour l'actualité, place à présent au rappel des principaux titres. Le député libéral Craig Kelly s'excuse auprès des familles des victimes du vol MH17 pour avoir suggéré d'être moins sévère envers la Russie. Et en France, la commission d'enquête sur l'affaire Lactalis a rendu ses conclusions hier. Et l'Union européenne frappe Google d'une amende record pour pratiques antitrust.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
sbs.com.au